Bonsoir et bienvenue pour cette 46e soirée d'éthique publique, la deuxième de notre année universitaire des facultés jésuites de Paris. Bienvenue surtout pour ceux qui viennent pour la première fois dans ce lieu de réflexion et de débat, et bienvenue aussi à ceux qui sont en lien avec nous par retransmission en direct, nos amis fidèles de Bordeaux, autour de l'église Notre-Dame-des-Anges, de Lyon, à l'espace Saint-Ignace, nos nouveaux amis, si je puis dire, d'Athènes, autour de la communauté francophone d'Athènes, qui est réunie à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, et beaucoup plus proche de nous, ceux et celles réunis autour de la communauté des sœurs du Carmel apostolique Saint-Joseph à Chaville. Dans la plupart des cas, ce n'est pas qu'un simple relais vidéo avec un public sur place, mais c'est l'occasion en chaque lieu de continuer le débat après la retransmission. Et nous nous réjouissons bien sûr de ces liens qui se tissent peu à peu autour de ces soirées d'éthique publique. Je rappelle qu'il est toujours possible de réécouter l'enregistrement des soirées sur le site internet du Centre Sèvres, www.centresèvres.com. Et comme à l'habitude, le point de départ sera la parole de deux invités qui vont partager simplement, en confiance, comment ils perçoivent les enjeux de telle réalité, avant évidemment d'ouvrir la parole et d'échanger entre nous. Alors, deux mots seulement avant d'aborder le thème de ce soir, plutôt deux mots informatifs. D'abord pour vous dire qu'il n'y aura pas de soirée d'éthique publique le 3 décembre prochain, le premier mardi du mois de décembre. Le 3 décembre, vous le savez tous, c'est le jour de la fête de Saint François Xavier, grande figure jésuite s'il en est, fête aussi un peu de la famille ignatienne. Et donc, nous vous invitons, au moins pour les Parisiens, à la célébration eucharistique qui aura lieu à l'église Saint-Ignace ce soir-là. C'est une autre casquette que je mets pour faire cette information. Ça signifie que notre prochaine soirée d'éthique sera l'an prochain déjà, le premier mardi de janvier, le mardi 7 janvier. Ensuite, autre information pour vous rappeler une des nouveautés du département d'éthique publique pour cette année, c'est le cycle de conférences sur les enjeux de défense et de sécurité, ce cycle où interviendront des spécialistes, chercheurs, militaires, journalistes, spécialistes de géopolitique, qui a pour but un peu de nous aider à permettre un tour d'horizon précis des questions de défense et des enjeux de sécurité pour notre pays dans le monde d'aujourd'hui. 5 séances le samedi matin de 10h à midi, les 16 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février et 8 mars. Vous trouverez tous les renseignements dans le programme du Centre Sèvres ou sur le site internet du Centre. La première séance aura donc lieu le samedi 16 novembre, donc samedi de la semaine prochaine, sur le thème « Le monde change, la guerre aussi ». Et pour nous aider dans notre réflexion, pour prendre un peu la mesure des évolutions géopolitiques du monde et des nouvelles questions de sécurité, nous accueillerons Monsieur Dominique David, qui est directeur exécutif de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et Monsieur Pierre Servant, qui est consultant pour les questions de défense et de stratégie, directeur de séminaire à l'école de guerre, samedi 16 novembre, donc de 10h à midi, la première séance de ce cycle. Je signale qu'il est possible de venir à une séance sans venir à toutes les séances. Voilà, venons-en enfin au thème qui nous réunit ce soir, les enjeux sociaux, écologiques notamment, aussi bien dans nos pays occidentaux qu'au niveau mondial, oblige, nous le voyons bien, à repenser nos manières de faire, interroge également nos choix économiques. Nous sentons bien, parfois un peu confusément, que nous ne pouvons pas seulement continuer comme nous le faisons, mais que nous sommes en même temps parfois un peu décontenancés pour savoir ce qu'il convient de faire, comment le faire et pour mettre en œuvre des changements. Cela concerne tous les secteurs de notre vie en société, cela touche notamment le monde de l'entreprise, directement confronté aux enjeux d'adaptation des modèles économiques, tout en continuant à être compétitif, à être créateur de richesses. Toutes ces questions font l'objet de nombreuses réflexions. Je pense, par exemple, pour être dans une actualité immédiate, On a pu en avoir des échos dans la presse au réseau des entrepreneurs d'avenir, ce réseau constitué de 700 entreprises, une grande partie des PME qui tient actuellement, ces jours-ci à Paris, son congrès qui veut avancer sur la question de la responsabilité sociétale des entreprises en mettant au point ce qu'il appelle le diagnostic social d'avenir, un outil d'auto-évaluation des engagements sociaux et sociétaux des entreprises, notamment en matière de développement durable. Alors, comment dépasser un discours qui peut peut-être pour certains paraître moralisateur ou accommodant pour viser une transformation qui soit réaliste et profonde de certaines pratiques? Comment promouvoir donc une véritable éthique dans le monde de l'entreprise? Comment aider ce monde de l'entreprise dans la mise en œuvre d'un projet de société qui intègre ces enjeux fondamentaux pour l'avenir? Pour répondre à ces questions, je suis heureux d'accueillir nos invités. Cécile Renoir, que nous avons déjà eu la joie de recevoir dans le cadre des soirées d'éthique publique en 2009, avec Gaël Giraud et Nicolas Véron. Cécile Renoir, religieuse de l'Assomption, philosophe, vous êtes enseignante ici au Centre Sèvres, mais aussi dans d'autres lieux comme l'École des Mines. Vous êtes directrice d'un programme de recherche à l'ESSEC. Et votre travail de recherche vous a conduit dans de nombreux pays, en Asie, mais aussi en Afrique, au Kenya, au Nigeria, au Bénin, je crois, où vous avez notamment ausculté, pourrait-on dire, les filiales de Total, Michelin, Lafarge, Unilever, notamment dans leur rapport au développement socialement durable. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « La responsabilité éthique des multinationales » en 2007, Un monde possible, les acteurs privés face à l'injustice, aux éditions du Seuil en 2008. 20 propositions pour réformer le capitalisme en 2009 chez Flammarion, un ouvrage coécrit avec Gaël Giraud. Un autre ouvrage écrit également avec Gaël Giraud, Le facteur 12, pourquoi il faut plafonner les revenus, aux éditions Carnet du Nord en 2012. Et vous venez de publier Éthique et entreprise, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire, aux éditions de l'Atelier, ouvrage qu'il sera possible de se procurer, si vous le souhaitez, à la sortie. Merci d'être avec nous ce soir pour nous partager votre vision des choses et vos propositions d'action. Mon autre invité sera un auditeur attentif des propos de Cécile, Emmanuel Marchand, ancien de l'ESSEC. J'ai appris aussi que vous étiez un ancien de Ginette, ce qui est tout pas mal, hein. Vous avez débuté votre carrière comme consultant, je crois, avant de rejoindre le groupe Danone en 1998 comme directeur du planning stratégique. Vous avez travaillé quelques années au Mexique dans des filiales de Danone à partir de 2002, développant notamment des initiatives autour de l'eau, avant d'être nommé directeur du développement de Danone et directeur général délégué de Danone Communities. Alors, vous pourrez peut-être mieux en parler que moi, mais je crois qu'il s'agit d'un fonds d'investissement créé en 2006 par Danone, qui s'appuie sur un modèle d'entrepreneuriat social dont l'objectif est justement de multiplier un petit peu les impacts positifs sur la société en termes de réduction de la pauvreté, de création d'emplois, de respect de l'environnement. Vous travaillez depuis des années sur plusieurs projets dont la plupart émanent d'ONG. On peut notamment citer le Grameen Danone Food, lancé au Bangladesh en partenariat avec le groupe Grameen, la banque des pauvres fondée par Mohamed Younous, l'inventeur du microcrédit et le prix Nobel de la paix. Cette initiative qui a poussé Danone à élaborer des méthodes de travail inédites, notamment des petites usines au Bangladesh permettant la production, la livraison de produits frais aux populations sans réfrigérateur. Tout cela est en partie financé, comme l'ensemble de Danone Communities, par une SICAV solidaire qui est proposée aux actionnaires, aux salariés, aux entreprises, aux consommateurs aussi. Autant dire que vous avez une réflexion qui s'appuie sur une expérience particulièrement riche, particulièrement intéressante sur ce qui est en train de se chercher dans le monde de l'entreprise, ce qui est possible, ce qui est peut-être aussi difficile de changer, ce qui est peut-être aussi utopique. Merci en tout cas d'être là ce soir pour nous partager votre réflexion. Alors, sans plus attendre, eh bien, je laisse la parole à nos deux invités. Quelle place pour l'éthique dans l'entreprise ? 20 minutes d'intervention chacun avant d'engager le débat plus largement. Et c'est Cécile Renoir qui va commencer. Merci Cécile.
Merci beaucoup François et bonsoir à tous. Alors je vais démarrer avec un exemple assez frappant de ces derniers mois qui est celui du scandale de la société Polyimplant Prothèse, PIP, cette entreprise de 120 personnes qui commercialisait des prothèses mammaires avec un gel non homologué qui a causé un certain nombre de décès. Et je me disais que cet exemple est un bon cas d'éthique, d'une certaine manière malheureusement, parce que d'une part, il reflète l'irresponsabilité de l'entreprise et montre comment un comportement frauduleux a des conséquences ou peut avoir des conséquences dramatiques. Et puis par ailleurs, j'avais été très frappée en lisant certains témoignages de salariés qui disaient avoir salariés de l'entreprise qui exprimaient le fait qu'ils étaient conscients des fraudes, mais qu'ils étaient restés silencieux. Alors on peut se demander comment expliquer ce silence, peut-être la non-conscience des risques qui étaient liés à cette fraude. Et puis ce qui était exprimé par ces salariés, c'était aussi la peur de perdre sa place ou de contribuer par une parole à un plan de licenciement en donnant l'alarme. Voilà. Et donc finalement, tous ces facteurs se conjuguaient pour perdurer un système qui était à la fois dangereux et criminel. Alors je trouve que ça fait beaucoup réfléchir sur la question du courage ou du manque de courage par rapport à l'analyse du fonctionnement des entreprises et peut-être à l'analyse du fonctionnement de nos sociétés. Je pense qu'il a beaucoup à voir avec un sentiment d'insécurité. Et on pourrait dire à contrario que ceux qui sont capables de résister, d'élever la voix, de dénoncer les manquements aux règles et les injustices, ont sans doute une force de caractère et une liberté intérieure très grande. Puis ce qui me frappe beaucoup pour côtoyer des personnes qui prennent des risques par rapport à ce qu'ils voient de tension, par rapport au fonctionnement de leur entreprise, de leur activité, c'est le fait que ces personnes disent puiser de la force dans le lien avec d'autres, le fait de pouvoir réfléchir, discuter, se sentir soutenu par d'autres. Et du coup, pour eux, le fait de se dire que le risque consenti a un sens pour eux et aussi pour d'autres. Alors je crois que cet exemple nous met bien face au défi d'une démarche éthique dans l'entreprise et de l'entreprise. Alors je voudrais développer ce champ qui est évidemment immense en trois points. Dire d'abord comment je comprends la question de la démarche éthique à la lumière des défis actuels. Et je voudrais mettre peut-être l'accent sur le fait que la crise écologique, que les défis écologiques représentent un défi éthique énorme et que la question sociale, la question de la justice sociale ne peut pas être pensée indépendamment de la question écologique. Et puis, je dirais ensuite comment je vois les responsabilités des entreprises vis-à-vis de ces enjeux de ce qu'on peut appeler la justice sociale et écologique. Et puis, je dirais un mot de ce que je peux percevoir à travers mon travail des résistances à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, sans doute de ce fait des enjeux qui sont à la fois des enjeux éthiques mais aussi des enjeux spirituels. Alors, donc premier point sur la démarche éthique dans nos sociétés et dans nos sociétés mondialisées, je dirais, pour résumer les choses, qu'il s'agit d'une affaire de vie et de mort. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de questions de bien vivre ensemble, mais aussi de savoir comment vivre ou comment donner aux générations futures les conditions d'un vivre et d'un bien vivre ensemble. Alors, je définis l'éthique en reprenant, en faisant un mix, pour ceux qui sont un peu familiers de philosophes contemporains, de définitions données à la fois par Paul Ricoeur et Hans Jonas. On pourrait définir l'éthique comme la recherche déterminée, personnelle et collective, de la vie bonne, aujourd'hui et demain, dans des institutions justes, au service du lien social et écologique. Bon, c'est une façon de dire... La démarche éthique est une démarche personnelle et une démarche collective. C'est un chemin, c'est un processus. L'enjeu, c'est cette visée du lien social, mais dont il faut prendre compte dans la durée, donc d'où l'idée d'un lien social et écologique, qui met aussi en évidence le lien que l'humanité entretient avec le cosmos et la création tout entière. Voilà. Et puis, je dirais, même si on ne peut pas caractériser la démarche éthique d'une démarche qui est toujours une démarche heureuse, parce qu'elle est, elle peut être douloureuse, parce que c'est aussi le fruit de combats, et parce que la joie est reçue, mais que ce n'est pas une recherche morose, ou triste, ou catastrophiste, c'est bien la recherche de la vie bonne, avec ce que le terme de bon peut avoir de goûteux pour nous personnellement et collectivement. Alors maintenant, pourquoi j'insiste tant sur la question écologique ? Je crois que là, tous les rapports, les articles que nous pouvons lire dans les journaux, qui se font l'écho des rapports d'experts, nous disent bien la gravité de la situation actuelle. Si nous continuons sur les tendances qui sont celles de nos sociétés, nous risquons d'avoir une augmentation de la température à l'échelle de la planète d'ici la fin du siècle de à peu près 5 degrés, dans le scénario le plus pessimiste, mais qui est une possibilité. Nous savons déjà combien un certain nombre d'événements extrêmes, type ouragans, catastrophes naturelles de type divers, ont lieu à une fréquence de plus en plus grande. Je lisais dernièrement qu'en 2012, plus de 32 millions de personnes ont été déplacées en raison justement d'inondations, d'ouragans et de sécheresses à travers la planète. Et on sait que voilà, tous ces rapports montrent que la situation risque de s'aggraver. Il faudrait revenir aussi sur l'épuisement des écosystèmes, sur les certains nombres de paramètres qui sont suivis de façon la plus précise possible par un certain nombre de chercheurs. Et un certain nombre d'entre eux soulignent que pour certains de ces paramètres, le seuil de basculement catastrophique pour la planète, est soit tout proche, soit déjà dépassé, en particulier pour ce qu'on appelle le cycle du phosphore, de l'azote, qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et la biodiversité. Voilà, alors je ne rentre pas dans les détails. Ce qui va avec cette menace en termes climatiques, c'est la prise de conscience que nous avons, par nos activités humaines, et notamment depuis la révolution industrielle, contribué à opérer une ponction très forte sur les ressources de la planète, avec l'idée que ces ressources naturelles existaient en quantité indéfinie. Nous savons maintenant que ce n'est pas le cas. Nous savons que la croissance du PIB est largement, alors là je fais écho à des recherches qui ont été faites ces derniers temps par Gaël Giraud avec une équipe du laboratoire d'idées de Shift Project, et puis qui est aussi une recherche universitaire pour montrer comment la croissance du PIB est largement liée à la consommation énergétique par habitant. Croissance du PIB par habitant. Donc, ce qui conduit à dire, dans un monde dans lequel les ressources énergétiques, ressources d'énergie fossile vont aller en diminuant, que l'idée de poursuivre la croissance comme nous l'avons calculée jusqu'aujourd'hui, c'est une idée qui est en fait impossible à tenir dans la durée, et en plus, sachant qu'elle correspond aussi à des projets qui sont insoutenables du point de vue de la préservation des écosystèmes, du point de vue des enjeux, notamment climatiques, mais écologiques de façon générale. Voilà, ça c'est pour quelques éléments de contexte macro, il faudra en dire beaucoup plus. Maintenant, si j'arrive à la question de l'entreprise, je pense que les entreprises là-dedans sont aussi très piégées vis-à-vis de la prise en compte de ces enjeux de long cours, par la recherche d'un retour sur investissement à court terme. Bon, alors on retrouve là toutes les analyses bien connues autour de la financiarisation de l'économie, une financiarisation qui est très contradictoire pour l'instant avec ces enjeux sociaux et environnementaux de moyen et long terme. Ça peut se décliner de différentes manières. Alors je donne juste quelques exemples par rapport au caractère injuste de la valeur qui est créée. On a tendance à moins favoriser les investissements productifs dans la répartition du capital, même si la répartition entre capital et travail est à peu près stable. En réalité, on voit bien comment, du point de vue du capital, les investissements productifs ont été minimisés et en faveur de retour sur investissement pour les actionnaires. Et puis, du côté du travail, on voit des inégalités de plus en plus fortes dans la répartition entre salariés. Et là, pour reprendre un exemple qui vient de Danone, Emmanuel Faber, qui est le vice-président de Danone, a calculé que si on enlevait 30% de la rémunération du centile les mieux payés de l'entreprise, du groupe, ça permettrait de multiplier par deux le salaire des 20% les moins bien payés. Alors je trouve que c'est je trouve très courageux de la part d'Emmanuel Faber d'avoir fait ce calcul, et je trouve très intéressant parce que cela donne aussi un argument par rapport à ceux qui disent que ça ne change pas grand-chose que d'enlever un pourcentage des revenus des plus riches. Ça change vraiment quelque chose. Ensuite, évidemment, il y a toute la question par rapport aux entreprises, et notamment dans le cadre de la mondialisation et des chaînes de valeur mondiales. La différence faite entre la situation des salariés des entreprises et souvent la situation des sous-traitants. Alors là, il y a de multiples exemples, et malheureusement, des drames récents comme celui des ateliers de Savar au Bangladesh, qui montrent bien comment, là aussi, il y a cet enjeu social qui est à prendre en compte. Et puis, en ce qui concerne l'activité sociétale et environnementale des entreprises, regardez comment à la fois, donc il y a ces problèmes liés au double standard entre souvent entreprises, pour faire bref, du Nord et du Sud, avec parfois des exigences en matière réglementaire qui étaient moins fortes dans les pays du Sud et qui ont pu donner lieu à des comportements qui n'étaient pas en faveur des droits des personnes, ni en faveur de la préservation des écosystèmes. Donc il y a un certain nombre d'interrogations autour des dysfonctionnements liés à une pression financière très forte, pour, notamment pour les grandes entreprises. Et puis, il y a ce que j'appelle la responsabilité politique de l'entreprise, alors au sens des enjeux de gouvernance et au sens de ce qu'on peut appeler la gouvernance mondiale, c'est-à-dire la prise en compte de la gestion, de la préservation des biens publics et communs mondiaux. C'est-à-dire que vis-à-vis des enjeux, notamment du réchauffement climatique, mais de l'avenir de la planète, comment est-ce que les entreprises vont pouvoir assumer le rôle qui doit être le leur en vertu de la puissance économique qui est la leur? Alors, je ne dis pas du tout que les entreprises sont chargées de tout, mais il me semble qu'on ne peut pas penser la responsabilité des États sans regarder en même temps comment des entreprises, notamment multinationales, ont aussi un rôle à jouer vis-à-vis de ces biens communs mondiaux. Alors, ça m'amène à mon deuxième point, qui est de dire de façon, là, après avoir décrit quelques problèmes qui se posent, des enjeux vis-à-vis de la responsabilité de l'entreprise et du coup, vis-à-vis de ce qu'on peut être considéré comme une démarche éthique globale pour l'entreprise. Je suis très frappée du fait que les critères qui sont donnés aujourd'hui pour définir le secteur de l'économie sociale et solidaire, et le propos est d'autant plus d'actualité que la loi Hamon va être discutée à partir de demain au Parlement. Cette loi, en fait, elle définit un certain nombre de critères qui sont censés valoir d'abord pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est extrêmement intéressant. Il y a notamment grand critère qui est celui de l'utilité sociale de l'activité économique. Alors, quand on considère ce secteur de l'économie sociale et solidaire, dans les textes, le projet de loi, on comprend l'utilité sociale d'une triple manière. La première manière, c'est l'attention portée à des publics dits vulnérables. Le deuxième accent, c'est la question de la cohésion territoriale et la façon dont ces projets vont pouvoir être facteurs de cohésion. Et le troisième critère est celui de la contribution au développement durable. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en réalité, ces critères, peut-être le premier, correspond à ce qui fait vraiment la spécificité d'un secteur qui a aussi pour vocation de s'intéresser à ceux qui risquent d'être exclus du marché de l'emploi classique. Mais pour ce qui concerne les deux critères, qui sont celui de la cohésion territoriale et de la contribution au développement durable, on pourrait dire que toute entreprise, en réalité, devrait avoir pour vocation de répondre à ce critère de l'utilité sociale. Et à mon sens, c'est le premier grand critère par rapport regard porté sur l'activité économique. Est-ce qu'elle a une utilité sociale? Quelle est son utilité sociale? Alors moi, j'irai encore un cran plus loin en disant, finalement, l'activité économique, si on veut prendre en compte jusqu'au bout la question écologique, il faudrait regarder non seulement sa contribution à une utilité sociale, mais considérer que cette utilité sociale, au bout du compte, elle correspond à la contribution de l'entreprise au maintien et à la croissance du lien social. Alors, du coup, notamment avec Gaël Giraud, on a proposé une forme de définition un peu schématique de l'entreprise qui consisterait à dire que finalement, l'activité de l'entreprise, elle doit se décliner en mettant un plancher d'un côté, un plafond de l'autre, et en laissant entre les deux un espace à la créativité de l'entreprise. Alors, le plancher, ce serait un plancher social. En gros, ce serait le respect des règles de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, dire que toute entreprise doit respecter faire en sorte que la dignité de la personne au travail et les droits fondamentaux des ayants droit de la famille, des salariés, devraient être respectés. Donc ça, c'est un plancher social à assurer. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte non seulement pour les entreprises la question des salariés, mais aussi des sous-traitants. Et ça, moi, c'est un des constats que j'avais fait en allant visiter les filiales de grands groupes dans les pays du Sud. C'était une manière de se défausser des responsabilités sociales sur les sous-traitants avec des activités des entreprises qui avaient été externalisées. Voilà, une pression très forte mise sur ces sous-traitants. Donc à la fois assurer ce plancher social pour, on pourrait dire, la chaîne de valeur, un plafond qui serait un plafond écologique, comment éviter de dépasser un certain seuil de consommation énergétique d'énergie fossile, et entre les deux, développer, essayer de maximiser avec une contrainte économique de profit non nul, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que l'entreprise vit d'amour et d'eau fraîche, c'est-à-dire qu'elle doit faire du profit, mais le profit n'est qu'un moyen au service de cette finalité sociale. Et donc ce qu'il s'agirait de maximiser, c'est alors ce que nous avons appelé les capacités relationnelles, c'est-à-dire en gros maximiser le lien social à la fois dans l'entreprise, ce qui serait une manière de mettre en évidence la question des relations sociales entre salariés, entre direction et personnes à différents niveaux de responsabilité. Et puis tout ce qui caractérise les relations entre l'entreprise et ce que dans le jargon des entreprises on appelle les parties prenantes, les groupes, les personnes et les groupes qui sont de près ou de loin affectés, concernés par l'activité. Et puis se dire que, alors ça rejoint l'interrogation plus large autour de l'utilité dans la durée de l'entreprise, se poser la question de la façon dont l'entreprise et l'activité économique contribuent ou pas à nourrir ce lien social et écologique dans la durée. Et à mon avis, à ce moment-là, ça permet de poser aussi un certain nombre de questions sur les critères à se donner de secteurs économiques qui ne sont pas des secteurs compatibles avec les enjeux de la transition écologique. Donc c'est une façon de revisiter les responsabilités de l'entreprise en articulant ce qui ressort de sa responsabilité plus immédiate, plus directe, plus interne, avec des responsabilités territoriales et en posant la question de la contribution de l'entreprise à des biens communs mondiaux. Et ça, je pense, alors pour avoir mené un certain nombre d'enquêtes auprès de multinationales qui ont des filiales dans des pays du Sud, je pose souvent la question à la fois au pouvoir public et aux dirigeants de ces filiales de savoir comment ils voient leur contribution à la limitation des émissions de gaz à effet de serre, donc à la limitation du réchauffement climatique, à la préservation des écosystèmes. Et je dois dire que pour un certain nombre d'entreprises de certains secteurs industriels, en réalité, j'ai des discours off et puis le discours officiel. Et souvent en off, les gens me disent qu'on va dans le mur et qu'il faudrait avoir des réglementations internationales, ou au moins à l'échelle européenne, beaucoup plus contraignantes. Voilà. Alors ça, c'est pour le... Je regarde l'heure. J'ai encore 5 minutes. Bon. Alors j'en viens au dernier point, qui est celui de l'analyse de nos résistances par rapport à ce projet, à la manière d'essayer de décliner cette démarche éthique. Donc, je le disais au début, d'une manière individuelle, d'une manière qui engage les responsabilités de ceux qui ont justement différentes façons de vivre leur activité professionnelle dans des entreprises qui peuvent être de taille, de secteurs très différents les uns des autres. Il faut bien reconnaître que le modèle actuel ne va pas dans le sens largement des enjeux de la transition écologique. On est encore très loin du compte, même s'il y a des efforts faits, et on pourrait décliner, et puis je pense qu'Emmanuel va détailler son expérience à la fois de Danone Communities et de cadre dirigeant d'un grand groupe multinational soumis aussi à un certain nombre de pressions, de contraintes, et on voit bien comment c'est extrêmement difficile d'essayer de tenir bon, d'articuler ses convictions personnelles, voire des convictions partagées avec d'autres, et les contraintes d'un modèle capitaliste financiarisé. Il me semble que c'est pas... Alors, il y a différentes manières, évidemment, d'analyser ces résistances. Moi, je proposerais le faire ce soir sous l'angle des enjeux spirituels et de la manière dont nous, chrétiens, sommes concernés à divers titres, parce que nous sommes des hommes et des femmes engagés dans des sociétés. Donc, nous sommes citoyens, nous sommes consommateurs, et même si nous n'avons pas ou plus d'activité professionnelle, nous avons un rôle à jouer à la fois dans l'analyse des questions et dans les choix que nous posons en termes de vote, en termes de choix de consommation. Enfin, ça peut se décliner en choix de moyens de transport, en choix de cadeaux, de vacances. Il y a plein, tous les aspects de notre vie sont concernés. Je trouve intéressant de se poser la question du péché social ou des structures de péché que peuvent représenter nos inerties en matière écologique. Et je crois que c'est important de se poser la question en termes de péché social, même s'il ne s'agit pas d'avoir un discours moralisateur ou dénonciateur uniquement, et qu'il ne s'agit pas de nous culpabiliser, mais plutôt de nous aider à prendre conscience de la gravité de ce qui est en jeu et de nous dire que nous pouvons aussi puiser dans notre trésor spirituel pour nous en sortir. Alors, je trouve que les analyses qui sont proposées par le théologien Matthias Nebel, qui a fait sa thèse sur la question des structures de péché, dans la ligne des formulations de Jean-Paul II dans l'encyclique Sollicitudo Rei Socialis, Matthias Nebel a essayé d'analyser, partant d'abord de cas concrets, et puis ensuite en ayant une argumentation générale, la façon dont peuvent se décliner les dimensions du mal social. Il distingue quatre dimensions. Alors, je vais aller très vite, mais je pense que c'est intéressant de se demander comment elles peuvent concerner les acteurs économiques, comme d'ailleurs nous tous comme citoyens, dimension depuis la question du malheur jusqu'à l'aveuglement, en passant par l'endurcissement et par ce qu'il désigne comme phénomène d'aliénation. Alors, il faudrait dire beaucoup de choses, puisque j'ai peu de temps là, mais passer tout de suite à la manière dont il articule ces dimensions du mal social avec ces dimensions de la responsabilité à la fois individuelle et collective. Et ça, je crois que ça peut être intéressant de nous poser la question de savoir où nous nous situons, personnellement et collectivement. Il y a un premier niveau qui est un niveau d'omission. Le fait de laisser faire, de ne pas voir comment les enjeux écologiques et comment le fait de ne rien faire aujourd'hui pénalise lourdement les générations futures, notamment. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la collusion. C'est le fait de cautionner passivement ce système par des choix que nous faisons. Par exemple, des choix de consommation, on pourrait dire quand nous ne regardons pas l'origine des produits que nous voulons acheter le moins cher possible, ou quand nous avons un certain nombre de pratiques en entreprise ou en dehors qui sont assez contradictoires avec les enjeux de long terme que nous connaissons. Le troisième niveau, c'est le niveau de la collaboration, c'est le fait d'être activement engagé dans une organisation dont nous voyons qu'elle a des effets qui sont des effets pervers vis-à-vis du maintien du lien social. Et puis le dernier niveau est le niveau de l'instigation, c'est-à-dire d'une certaine manière de l'initiative, le fait que certains, alors je ne sais pas, peut-être penser dans le domaine de la finance à certaines pratiques financières dont nous savons aujourd'hui qu'elles sont socialement nuisibles, qu'elles sont contradictoires avec des enjeux justement de justice sociale et des pratiques qui sont maintenues en dépit du diagnostic qui est posé de leur caractère socialement nuisible. Ça, l'instigation est évidemment le niveau le plus élevé de responsabilité. Alors, à partir de là, on peut essayer de décliner, peut-être c'est un examen de conscience à la fois individuel et collectif qui peut être posé, pas pour se dire que voilà, c'est comme ça et il n'y a plus rien à faire ou le monde est pourri, mais bien pour se dire que nous recevons d'une certaine manière en héritage des institutions qui ont des effets tout à fait positifs pour nos vies, mais qui ont aussi ces effets potentiellement très dangereux, à la fois pour ceux qui déjà aujourd'hui sont les plus vulnérables vis-à-vis des changements écologiques ou des questions d'inégalité à l'échelle d'inégalité sociale, et puis essayer de voir comment nous avons à notre disposition des ressources pour voir les choses et les vivre autrement. Alors je vais terminer juste en donnant quatre critères que certains d'entre vous ont déjà pu lire parce qu'ils reprennent des choses que j'ai pu écrire par ailleurs. Mais un premier critère, ce serait un critère de confiance, je dirais de confiance et de conscience. Ce que Frédéric Ball, que je vois dans la salle, appelle l'attitude de la veille éthique, qui à mon sens est intimement liée avec une confiance faite dans les ressources que nous avons personnellement et collectivement pour nous en sortir. Un deuxième jalon, ce serait de prêter attention à ce que le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer appelait la polyphonie de la vie, C'est une manière de sortir de la polarisation autour de, alors soit peut-être notre activité professionnelle, un seul type de préoccupation, que ce soit vis-à-vis des enjeux de la carrière professionnelle, de la reconnaissance par ses pairs ou autre, ou d'autres choses. Et Bonhoeffer avait cette très belle expression liée à son expérience alors qu'il était emprisonné et pendant les bombardements à Berlin en 1944-45, de dire si on commence à prêter attention à ce qui se passe autour de nous, se soucier de ce que vit l'autre, eh bien on déplace son regard et du coup on regarde les choses autrement et soi-même on vit autrement. Le troisième critère, ce serait le critère du maillage, ce qui rejoint la question du lien social, à essayer de mettre comme critère essentiel alors de l'objectif de l'activité économique, mais peut-être de nos existences tout entières. Comment, dans des sociétés dans lesquelles on dit bien que nous sommes des sociétés en réseau, comment faire en sorte que les personnes puissent être en lien les unes avec les autres, comment faire en sorte pour que nos actions ne nous mettent pas au centre des réseaux, mais permettent à des liens de se créer, et notamment pour ceux qui peuvent être les plus exclus, les plus invisibles dans nos sociétés. Et puis, enfin, je terminerai sur une triple référence biblique, la triple figure prêtre, prophète et roi, qui me semble être une bonne manière de parler aussi du rôle de ceux qui sont, notamment aussi dans les entreprises, et qui essayent de mettre leurs compétences et leurs convictions au service de projets qui soient porteurs de sens et de liens sociaux. Prêtre, c'est bien celui qui regarde, contemple la réalité, est capable de ne pas d'abord se saisir de la création qui lui est donnée comme un don. Donc c'est une manière aussi vis-à-vis de la création d'essayer de lutter contre une approche prédatrice, mais qui soit d'abord une approche respectueuse de cette création qui nous est confiée et qui est confiée à nos soins pour la transformer. La deuxième figure, la figure du prophète, c'est celui qui crie et qui ne s'accommode pas des injustices, qui dénonce à temps et à contre-temps. Et puis la figure du roi, c'est celui qui, le décideur, on pourrait dire celui qui, dans le clair-obscur de la réalité, dessine des chemins patiemment en essayant d'entraîner d'autres. Et ça, je pense que c'est cette triple figure, nous sommes tous appelés à la vivre, à la décliner peut-être de manière un peu différente selon ce que nous sommes, selon nos sensibilités, mais je pense qu'elle peut dessiner un engagement, notamment pour ceux qui sont en entreprise particulièrement affrontés à des choix cruciaux. Voilà, je vous remercie.
Merci Cécile. Vous avez commencé votre propos en évoquant la question du courage, le courage pour parler. C'est vrai que ce n'est pas très facile quand on prend la mesure des enjeux que vous nous avez rappelés, les enjeux, la gravité de la situation, des enjeux écologiques, les enjeux de justice sociale. Et que face à cela, eh bien, vous nous avez dit que les entreprises avaient quand même un peu du mal à répondre, notamment parce qu'ils pouvaient être piégés par la recherche d'un retour rapide sur investissement. Vous avez également évoqué la responsabilité des entreprises dans la gouvernance mondiale. Alors face à cela, vous nous avez montré quand même qu'il y avait une autre manière de fonctionner, que l'économie sociale et solidaire pouvait essayer de se trouver un chemin avec un certain nombre de critères. Vous avez évoqué celui de l'utilité sociale, de la croissance et du maintien du lien social, le souci d'assurer un plancher social et un plafond écologique, poser la question de la contribution de l'entreprise à des biens publics mondiaux et notre responsabilité à chacun, comment nous situer, comment avancer, peut-être en prenant la mesure du mal social. Vous avez évoqué cette question de la structure de péché social, mais vous avez terminé quand même en nous disant qu'on n'était pas complètement démunis face à cette situation d'inertie, de collusion, de collaboration, parce qu'on avait aussi quelques ressources du côté de la confiance, du côté de la polyphonie de la vie, du côté aussi du maillage, et à travers la figure de prêtre, prophète et roi, qui peut être suggestive pour avancer. Autant de matières à réflexion, on voit bien que ça nous donne envie de continuer à lire vos livres, et puis matière à débat que nous allons continuer immédiatement avec Emmanuel Marchand, qui va peut-être aussi, à travers sa propre expérience, réagir, donner peut-être un autre écho à ce que nous venons d'entendre. Emmanuel Marchand, vous avez la parole.
Merci. On m'entend bien ? D'accord. Donc je me décrirais d'abord comme un homme d'entreprise qui a travaillé pendant 20 ans dans le monde de l'entreprise, dont 15 ans chez Danone, et dont 6 presque cette année maintenant sur un projet merveilleux dont je vais vous parler, qui s'appelle Danone Communities. Il faut que je parle encore plus fort. Deuxième chose que je voudrais dire pour commencer, c'est que je suis un optimiste. Je suis rentré dans le monde de l'entreprise persuadé que l'entreprise peut œuvrer au bien commun. Et je viens d'une tradition de famille du Nord, d'entrepreneurs, dans lesquels il y a une véritable éthique de l'entreprise, mais j'ajouterais même une véritable éthique d'entreprendre. La question qu'on me pose chaque fois que je reviens dans ma famille, c'est qu'as-tu entrepris ? Qu'as-tu créé ? Que restera-t-il ? Et donc je dirais, tout ce dont je voulais vous parler est guidé par ça. La question que je pose, c'est qu'est-ce que nous entreprenons ? Sachant que, bien entendu, chaque entreprise porte un rêve, des opportunités, des risques. J'ai eu la chance de travailler sur un projet qui s'appelle Danone Communities, dont je vais vous parler. Et je pense que Danone Communities, vous allez probablement considérer comme moi que c'est un beau projet, qu'il peut donner beaucoup d'espoir. Et en même temps, comme nous tous, nous nous dirons, mais Danone Communities, c'est une petite goutte dans l'océan de l'entreprise. Et donc, je vais essayer de vous dire ce que Danone Communities m'a appris sur l'entreprise et sur la question de l'entreprise et de son rôle vis-à-vis du bien commun. Alors, Danone Communities, pour ceux qui n'ont pas bien entendu votre introduction, est né de la rencontre de Danone et de son patron, Franck Riboud, avec Mouhamad Younous. Je trouve que c'est très important de démarrer par là. Mouhamad Younous avait été l'un des inventeurs du microcrédit, c'est-à-dire d'une forme de banque pour les pauvres. Il en avait une longue expérience et on peut dire qu'il avait réussi à avoir un impact important. On parle d'aujourd'hui 100 millions de personnes qui bénéficient de cela. Et en même temps, il en avait tiré des principes d'action. Et un jour, Mouhamad Younous s'est dit, mais finalement, ce qui a réussi dans le microcrédit ne pourrait-il pas réussir dans d'autres domaines ? Et un jour, il rencontre Franck Riboud et lui dit, mais pourquoi vous ne viendriez pas résoudre mon problème de malnutrition au Bangladesh. J'essaierai d'expliquer tout à l'heure pourquoi Franck Riboud a répondu favorablement. Je pense qu'il y a une trajectoire pour expliquer ça, mais en tout cas, la réalité, c'est que je suis embauché quelques mois plus tard pour démarrer une entreprise qui a la vocation d'avoir un impact sur les questions de malnutrition au Bangladesh. Donc une entreprise qui a une ambition folle et qui double sa folie parce qu'elle veut le faire en même temps en ayant un impact positif sur l'ensemble des acteurs de l'écosystème autour de cette entreprise. Donc veut avoir un impact sur la pauvreté. Et tout cela en étant rentable. On m'a donné les clés le jour où on allait vendre le premier yaourt. Et puis, à partir de là, c'est devenu difficile. Et donc, l'histoire que je vais vous raconter, c'est que pour moi, Danone Communities, c'est vraiment intéressant parce que quand on se demande quel est le rôle social et comment maximiser le rôle social de l'entreprise, on parle d'une entreprise qui est au milieu de ces différentes finalités, dont bien sûr celle du profit, dont bien sûr celle de la survie, dont bien sûr celle de la maximisation de la valeur pour ses actionnaires. Quelque part, nous, on est parti du point de vue angélique. Nous voulons créer une entreprise dont la vocation est d'avoir un impact positif. Seulement, nous avons dû apprendre à faire vivre cette entreprise dans la réalité. L'histoire de Gramine Danone, c'est un an après avoir démarré la crise alimentaire, qui a précédé de peu la crise financière, qui a signifié pour nous très simplement le doublement du prix du lait, et qui a signifié pour nous simplement que l'entreprise que nous avions créée n'était pas viable et allait être en faillite. Il a fallu à ce moment-là faire des choix. Et je me souviens très bien que celui qui nous a poussé à faire les choix les plus difficiles était le professeur Younous, qui nous a quelque part imposé l'éthique du business. Il nous a dit, on ne peut pas faire de compromis. Si nous voulons que les choses durent, nous devons travailler avec les règles qui vont faire que les choses vont durer. Ça a signifié des choses pour moi très difficiles, puisque j'étais encore dans ce rêve éveillé. Mais par exemple, nous avons augmenté les prix, donc nous savions ce jour-là qu'un certain nombre de nos consommateurs seraient exclus. Nous avons décidé de ne pas travailler seulement dans les campagnes, où bien sûr les problèmes de malnutrition sont les plus importants, mais d'aller aussi vendre nos produits dans les villes, où nous pouvions travailler plus facilement. Nous avons, en augmentant les prix, rendu le travail impossible pour la plupart des femmes qui distribuaient le produit dans les campagnes, et dont nous étions très heureux d'avoir donné un travail, à qui nous avions donné un travail, et la plupart n'ont pas pu garder ce travail à ce moment-là. Et en même temps, je suis persuadé que ce sont ces décisions difficiles qui ont sauvé l'entreprise et qui lui ont permis d'avoir l'impact qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire, nous pensons qu'aujourd'hui, 300 000 enfants ont une santé qui va un peu mieux grâce à cela. Et à peu près 2 000 personnes sont impactées positivement par ce projet. Mais pas tout le monde. Et donc, j'ai trouvé très intéressant cette confrontation du rêve d'une entreprise parfaite aux réalités. Et cette confrontation, c'est celle que je vis depuis 6 ans. Et c'est aujourd'hui, je dirais, le chemin pour Danone Community, c'est de trouver le bon équilibre. C'est-à-dire entre le rêve et ce qui est possible, ce qui est possible et qui peut durer. Alors, nous sommes très heureux du chemin parcouru. Aujourd'hui, Danone Community, c'est 10 projets. C'est notre calcul, c'est à peu près 1 million de personnes qui bénéficient de ces projets. Ce sont des projets qui deviennent durables. 4 d'entre eux, aujourd'hui, ont passé le point mort sur 10, mais c'est aussi 6 qui ne le sont pas. C'est effectivement un fonds, c'est-à-dire que on a demandé à ceux qui le voulaient bien d'investir dans une autre forme d'économie, et je peux dire que jusqu'à présent je n'ai pas manqué d'argent, donc on trouve des investisseurs. Et en même temps, ce sont chaque jour des choix, et le choix, par exemple, il y a 2 ans, de dire Danone Community va s'arrêter à 10 projets jusqu'à ce que on soit sûr qu'on ait rendu tout cela durable. Voilà. Alors, la deuxième partie de ce que je voudrais décrire, c'est mais finalement, est-ce que tout cela est une goutte d'eau ou pas par rapport à Danone? Alors, quand je vais vous parler de Danone, je vous parle de mon expérience de Danone. Je ne suis pas un porte-parole de Danone, même si vous allez probablement sentir que je suis assez tatoué. Pourquoi Danone démarre un projet comme celui-ci? Danone a ancré, je dirais, son projet d'entreprise et sa culture autour, au départ, dès les années 70, autour d'un projet qu'il appelle économique et social, le double projet de Danone. Tous les employés de Danone savent que nous vivons ce rêve éveillé et cette contradiction et cette schizophrénie et qu'on essaye de la vivre tous les jours tout en étant dans les règles du jeu. Les règles du jeu étant celles de la concurrence et des marchés financiers, pour ne citer que cela. Il y a bien sûr toute une histoire de ça, mais bien sûr, dans le double projet économique et social de Danone, donc l'économique prime quand même. Le projet Danone Community, ça a été d'essayer de voir ce qui se passe quand on inverse. Le deuxième grand ancrage, c'est que Danone s'est donné une mission. Tout à l'heure, Cécile parlait de la finalité. Je crois que Franck Ribou a transformé l'entreprise après son père une deuxième fois quand il a dit « on est là pour avoir un impact, nous sommes là pour non pas vendre des produits alimentaires, mais pour avoir un impact sur la santé par l'alimentation au plus grand nombre ». Franck Ribou dit toujours que quand il a défini cette mission pour l'entreprise, il était conscient qu'il donnait une mission folle. Mais je crois qu'il a, quelque part, il a influencé tout ce que nous avons par cela. Donc, quand Franck Ribou rencontre Mohamed Younous, et donc j'en étais à pourquoi Danone fait ça, en fait, Franck Ribou dit à Mohamed Younous, mais en fait, moi, j'ai une mission, mais en fait, je ne sais pas la remplir. Peut-être que vous, qui avez travaillé sur le microcrédit auprès des plus pauvres, pouvez m'aider, en fait, à remplir ma mission. De ce point de vue-là, d'ailleurs, Danone Communities est très clairement aussi un laboratoire pour Danone. On apprend des choses. Vous parliez de la petite usine du Bangladesh, elle a déjà servi à d'autres usines de Danone. Et cette petite usine, elle est très intéressante de plein de points de vue, mais par exemple, elle peut être très intéressante du point de vue de l'écologie. Elle pose la question de la proximité de la production et des consommateurs. Une autre raison pour Danone de faire cela, c'est tout simplement l'engagement des salariés. Je vous disais que je suis un optimiste. Je suis frappé de voir la besoin de sens de très 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 nombreux collaborateurs chez Danone, et pas seulement ceux qui travaillent pour Danone Communities, qui sont une petite bande de chanceux. Aujourd'hui, la plupart des CV que nous recevons, et pas seulement en France, mentionnent ces projets comme une source d'inspiration et d'envie de rejoindre Danone. Aujourd'hui, en France, tous les ans, un tiers des employés investit dans notre SICAV Danone Communities leur propre argent. Donc voilà, plein de belles choses. En même temps, Danone Communities, ça reste tout petit par rapport à Danone. Alors, il n'y a pas que Danone Communities, hein, y a pas mal d'autres projets, notamment des projets liés aux enjeux environnementaux, des projets très focalisés, eux, sur les enjeux de l'emploi. On va dire, il y a beaucoup d'autres choses, mais même la somme de toutes ces choses-là ne suffit pas, bien sûr, à faire Danone. Mais comme je suis un optimiste, je pense qu'une entreprise dans laquelle les gens qui sont recrutés sont inspirés par la finalité et les moyens de l'entreprise autour de ces questions, une entreprise dans laquelle les salariés investissent dans ces projets et s'investissent, je pense que c'est une entreprise qui est transformée petit à petit, de l'intérieur, bien que nous soyons confrontés aux réalités tous les jours des marchés. Et c'est drôle, j'ai pas du tout lu ce que j'avais préparé. Du coup, je vais réfléchir à qu'est-ce que j'ai oublié. Si j'avais quelque chose que je voulais vous dire, je vous ai dit que j'ai démarré persuadé que donc l'entreprise peut œuvrer au bien commun. Donc moi, je suis né, dans une culture où le capitalisme, c'est comme la démocratie. Donc c'est le moins pire des moyens. Donc ça veut dire que, comme pour la démocratie, j'avais les yeux ouverts surtout sur attention aux excès, quelles règles, quelle éthique, mais au sens quelle déontologie. Et c'est vrai que le projet d'Uncommunities m'a permis d'ouvrir les yeux sur l'immense réservoir d'énergie et de possibilités de se tourner vers tout ce qu'on peut faire de bien et pas seulement faire attention à ce qu'on peut faire de mal. Et je crois que ce, par rapport à la question de Sœur Cécile sur la conscience, quelque part notre capacité à nous révolter, ben je crois qu'il y a aussi la capacité à nous émerveiller. Et moi, j'ai vu beaucoup cette capacité à s'émerveiller et à avancer et à être courageux, parce qu'on est inspiré. Enfin, Dan Uncommunities, peut-être que j'ai oublié de dire cela. En fait, tout ce que je viens de dire, je n'ai rien fait de cela. Tout a été fait en co-construisant des choses avec des partenaires comme vous le disiez tout à l'heure, la plupart du temps ne venaient pas eux-mêmes du monde de l'entreprise. Donc en fait, le projet d'Uncommunities s'est confronté, s'est frotté pour pouvoir imaginer cette entreprise peut-être de demain à d'autres cultures. Et ça, évidemment, sur mon chemin, sur ces questions, ça m'a ouvert les yeux. Il y a une anecdote que Emmanuel, d'ailleurs, Faber raconte aussi dans son livre, qui est que nous sommes allés une année au Forum Social Mondial, à Belém. Et nous, pour ceux qui connaissent, c'est une grande foire, et où chacun propose les sujets qu'il veut débattre. Et nous avions proposé de débattre de l'utilité de la multinationale. Et nous avions été confrontés au départ à la révolte. Certains nous ont demandé comment on osait poser cette question au Forum Social Mondial. Certains ont quitté la salle. Certains ont essayé de m'expliquer, et moi, n'arrivant pas à comprendre que la multinationale, c'était du néocolonialisme, et je crois en fait avec de bons arguments, pour enfin décider que effectivement la multinationale n'a de raison d'être que si elle a une utilité sociale. Elle n'a de raison d'être bien sûr que si elle respecte les lois, elle paye ses impôts. Elle n'a de justification aussi que si elle ne construit pas des positions qui seront des rentes pour toujours, qu'elle ne garde pas ses brevets à l'infini ou ses savoir-faire, mais donc que quelque part, elle s'inscrit dans une dynamique, effectivement, d'apport au pays concerné. Alors ça, c'est des petites choses qui me trottent dans la tête, parce qu'en ce moment, mon deuxième métier, c'est que je fais des acquisitions pour Danone, essentiellement aux pays émergents. Et donc voilà, je vous ai raconté tout le rêve de Uncommunities, tout l'optimisme, et aujourd'hui, je vis en face la question de à quoi ça sert ce qu'on fait quand on se développe à l'international, sachant que Aujourd'hui, Danone est dans une centaine de pays. Voilà, c'est comme ça que je termine pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, Emmanuel Marchand. Je crois que, à travers la présentation que vous nous avez faite de Danone Communities, son origine, son projet, son développement, ses exigences, sa confrontation entre rêve et réalité, sa place aussi dans le grand groupe Danone, je crois que vous nous avez bien effectivement montré que vous restiez un optimiste, persuadé que l'entreprise pouvait agir au service du bien commun et que vous vous êtes vraiment totalement engagé dans cette foi-là, dans ce projet. Alors, voilà, peut-être que la question pour nous, c'est de savoir que faire, qu'est-ce que nous entreprenons ? C'est la question que vous avez posée au début et j'ai apprécié cette note sur cet immense réservoir de tout ce qu'on peut faire de bien, plus peut-être que ce qu'on peut faire de mal. J'avais l'impression d'entendre le pape François. Voilà, merci de votre témoignage, de votre parole très personnelle. On a senti combien vous étiez engagé dans ce que vous nous disiez ce soir, de votre expérience partagée. Nous sentons combien nous avons besoin les uns des autres pour avancer dans cette réflexion et dans notre agir. Et nous allons continuer à avancer dans cette réflexion en laissant remonter un peu les convictions et les questions que nous pouvons avoir et qui sûrement doivent être nombreuses ce soir. Alors on va faire comme d'habitude, passer le micro, recueillir quelques questions, deux ou trois, peut-être vérifier qu'il est bien allumé. Voilà, on va prendre au milieu, en montant, vous pouvez monter, et puis au milieu de la salle, levez bien la main encore pour qu'on vous voit bien ici. Voilà, merci. Question ou conviction assez courte, si possible. Merci.
Oui, bonsoir, merci pour votre témoignage et l'ensemble de votre exposé. En fait, j'avais des questions concernant l'investissement actuel des politiques sur le plan, au niveau du territoire et au niveau aussi de l'Europe. De quelle manière, en fait, voyez-vous l'évolution actuellement de la pratique du développement durable au niveau européen ? Est-ce qu'il y a réellement des investissements de la part des politiques, des gouvernants ou des chefs d'entreprise de vouloir investir dans le durable ? Et est-ce qu'ils sont convaincus également de la rentabilité du durable à long terme ? Parce que bon, il y a des modèles qui effectivement, des associations comme Ashoka qui aux États-Unis ont été développées, qui ont permis d'encourager un peu ce type de développement durable. Est-ce que réellement vous sentez qu'il y a une prise de position, une conscience en fait par rapport à l'utilité de ce développement pour l'écologie et pour l'homme ?
Merci. On va monter plus haut pour récupérer le micro qui va aller vers le haut.
Je voudrais savoir quelles idées a Sœur Renoir. Donc, par exemple, pour cette fameuse société, il se trouve que moi j'ai lu qu'il y avait des enquêtes, enfin des gens qui venaient contrôler justement l'agrément de cette fameuse société et des produits qui étaient utilisés dans ces fameuses prothèses. Sauf que ces sociétés qui venaient contrôler, l'entreprise était prévenue des jours et des dates auxquelles elles allaient venir faire le contrôle. Donc en pratique, ils enlevaient les bidons, ils cachaient ce qui n'est où, ils en transportaient ailleurs ce qui n'était pas présentable. Donc, à part le fait que ce serait peut-être bien qu'il n'y ait pas une date d'information spécifique, comme système idéal, qu'est-ce que vous proposez ? Ou alors il faudrait qu'il y ait un cercle éthique interne à chaque société commerciale ? Et sinon, par rapport à la pollution, l'environnement, comment faites-vous pour convaincre les Chinois et les Indiens qui n'ont pas le droit d'acheter une voiture ?
Voilà, merci. On va redescendre, Brigitte. Je vous fais faire du sport, mais c'est pour respecter ceux qui ont levé la main en premier. Et on va prendre une question de Bordeaux, en direct de Bordeaux.
Les Bordelais, ça a lu une Bordelaise.
Voilà, oui, sœur Cécile est bordelaise. Oui.
Il y a eu plusieurs questions, donc je vais essayer de faire un mix.
Parle bien dans le micro.
Quelles sont les autres opportunités et réussites qui pourraient être identiques à Danone Communities dans des multinationales et dans des PME ? Est-ce que des PME peuvent avoir ce genre de de projets. Est-ce que vous avez, Emmanuel Marchand, des regrets sur certaines décisions que vous avez prises? Et une dernière question sur quelle est la particularité en termes de gestion des salariés de Danone? Quels sont, est-ce qu'il y a des répartitions de salariés particulières? Est-ce qu'il y a des choix en matière salariale qui sont différents?
Voilà, on va peut-être en rester là pour l'instant. On reprendra une série de questions tout à l'heure. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. On peut peut-être commencer par la question de l'évolution de la politique du développement durable au niveau européen. Et puis après, on pourra passer à la question des prothèses mammaires. Je ne pensais pas un jour aborder ces questions en soirée d'éthique publique, mais il faut être prêt à tout. Ceci.
Alors, sur la grande question de politique, développement durable au niveau européen, au niveau national et dans les territoires, alors ça dépasse le simple cadre de l'entreprise. Ce que je peux dire pour partir d'abord de l'entreprise, c'est que quand même au niveau européen, depuis 2 ans, la définition donnée à la RSE, à la responsabilité sociale des entreprises, qui en principe inclut justement à la fois les questions sociale, sociétale et environnementale et de gouvernance, eh bien la définition est beaucoup plus exigeante que la définition précédente qui consistait à dire que la RSE ou le développement durable, c'est ce qui se fait au-delà de ce qui est prévu par la loi. Alors vous allez me dire, il faut s'interroger évidemment sur le niveau des réglementations. Maintenant, la RSE est définie comme la gestion par l'entreprise des effets de son activité. Et si on regarde, alors il faudrait lire de manière plus précise ce qui est écrit par l'Union européenne, ce qui a été le fruit d'un consensus, c'est-à-dire que donc l'entreprise doit évaluer ses effets, évidemment positifs, mais aussi négatifs, directs et indirects, et assumer sa responsabilité vis-à-vis de ses effets. Et donc ça veut bien dire que sur les questions d'engagement dans des territoires en faveur du développement durable, ça donne des éléments pour un certain nombre d'acteurs pour réfléchir à ce qui peut être fait. Alors, on arrive, et ça rejoint ce qu'Emmanuel évoquait, de l'intérêt de la coopération entre acteurs différents par rapport aux engagements en matière de développement durable dans les territoires. Donc, par exemple, si on prend là, alors c'est moins le niveau européen que le niveau français, le gouvernement a mis en place des pôles territoriaux de coopération économique qu'il essaye de favoriser dans les régions pour faire en sorte que se mettent ensemble des élus locaux, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales avec des acteurs à la fois de l'économie sociale et de l'économie classique pour développer ensemble des projets. Alors c'est vrai que je pense qu'ils ont un accent qui est mis davantage sur la question de la création d'emplois à assez court terme que sur les enjeux de plus long terme. Alors sur les enjeux de long terme, ça, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui sont réfléchies à l'échelle européenne. Il y a aussi toute la question de savoir comment les pays vont adopter des lois et des politiques publiques qui intègrent les enjeux de la transition écologique et énergétique comme des grandes orientations pour nos projets de société. Et là, Gaël, je ne sais pas s'il est dans la salle, pour en dire beaucoup plus de moi sur le débat national sur la transition écologique, puisqu'il faisait partie l'année dernière du groupe des experts qui se sont réunis pendant un an pour élaborer des scénarios, experts de disciplines différentes, ce qui est tout à fait intéressant, se dire comment à la fois des scientifiques en sciences dures, en sciences sociales, en lien avec les pouvoirs publics, réfléchissent à ce qui est possible, nécessaire, à la fois à court terme et à plus long terme. Et ça se décline en termes de rénovation thermique du bâtiment, en réflexion autour des modes de déplacement, donc du réseau de ferroutage peut-être à privilégier. Enfin, il y a plein d'exemples. Ce sont quelques éléments. Je dois dire que je ne me sens pas assez compétente, peut-être qu'Emmanuel le sera plus, sur ce qui se passe à l'échelle européenne pour envisager des politiques publiques qui soient vraiment cohérentes et coordonnées. Il ne me semble pas qu'il y ait encore suffisamment au niveau à la fois des politiques et au niveau de l'Union européenne une décision pour dire que la transition écologique doit être notre priorité. Et qu'à partir de cette priorité se décline une réflexion sur la création d'emplois et sur la lutte contre les effets néfastes de la crise. Et prendre la question du lien social et écologique comme une chance pour justement promouvoir d'autres modèles économiques. Alors, peut-être que je peux passer à partir de là. La question concernant la société PIP. Alors, moi, j'ai lu la même chose que vous. Je ne suis pas du tout, je n'ai pas étudié de très près ce cas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu visiblement un système de contrôle tout à fait frauduleux. Donc, évidemment, un des enjeux, c'est de faire en sorte que les contrôles et les audits soient faits d'une manière qui permette de vraiment vérifier ce qui se passe dans l'entreprise. Et je veux dire qu'à l'échelle internationale, c'est un peu la même chose que Nike a mis en place pour contrôler ce qui se passe dans les usines des sous-traitants qui fabriquent des ballons de foot ou dans le secteur des vêtements, après les scandales du Mondial de 98, où on avait découvert que des enfants avaient contribué à la fabrication des ballons. Et un des dispositifs mis en place par l'entreprise avec une ONG, c'était d'essayer de mettre en place donc un système d'audit à l'improviste des usines. Ça, vous dites vous-même, c'est peut-être pas suffisant parce que c'est d'abord une question de responsabilité de l'entreprise. Alors, il y a bon nombre d'entreprises aujourd'hui, en tout cas dans nos pays, qui s'engagent, qui signent des déclarations en faveur du respect des règles de l'OIT, du respect des droits de l'homme, de la lutte contre combat en faveur du maintien des écosystèmes et d'une responsabilité écologique. Toute la question, c'est de savoir comment à la fois faire fond sur ces déclarations des entreprises en se disant que l'engagement volontaire est déjà une manière pour elles de se soumettre aussi à un regard de l'opinion publique, à regard d'ONG ou autres associations de consommateurs. Et puis, c'est aussi voir comment, avec l'incitation, doit s'articuler aussi la contrainte réglementaire pour essayer de faire en sorte que les règles permettent le plus possible le respect des personnes. Après, il y aurait plein de choses à dire sur ce cas précis, mais je voudrais juste dire un mot de votre dernière question sur la question de l'environnement et du respect de la question écologique par les Chinois et les Indiens. Je pense que les Chinois et les Indiens aujourd'hui sont en train de se rendre compte qu'ils ont à assumer une responsabilité vis-à-vis de ces enjeux planétaires parce qu'ils en seront eux-mêmes victimes s'ils ne le font pas. Je pense que c'est particulièrement vrai pour la Chine. Alors, moi, je connais un tout petit peu mieux le contexte indien et je dois dire que là, à court terme, je vois la façon dont s'exprime la tension entre des objectifs d'industrialisation massive du pays et les objectifs à plus long terme. Et pour avoir discuté il y a quelques mois avec les pouvoirs publics de l'État du Tamil Nadu, qui accueille les investisseurs étrangers, notamment tous les constructeurs automobiles et les entreprises qui contribuent à l'industrie automobile comme Michelin, et interrogeant ces pouvoirs publics sur ce qu'ils voyaient comme possibilité de prise en charge justement des biens communs mondiaux, eh bien la première réponse qui m'a été faite, c'est de dire « tant que vous, occidentaux, vous ne bougerez pas, vous ne donnerez pas l'exemple, comment voulez-vous être crédible ?» Et nous, nous pouvons, voilà, la classe moyenne indienne a bien le droit d'aspirer à avoir une voiture individuelle. Et c'est évidemment en contradiction en tension très forte avec les objectifs des mêmes pouvoirs publics, par exemple pour la ville de Chennai, puisqu'ils ont décidé que d'ici 2020, on devait inverser la tendance. Pour l'instant, on a 40% de la population qui se déplace en transport en commun et ils voudraient que 70% se déplacent en transport en commun en 2020. Et autant dire qu'avec cette venue des constructeurs automobiles dans la région, on est sans doute très loin du compte. Je pense que ça dit quelque chose de la tension et donc de l'appel à nous, citoyens et consommateurs du Nord, vis-à-vis des exigences, sinon d'une décroissance tous azimuts, d'une décroissance sélective dans un certain nombre de domaines.
Merci Cécile. Emmanuel Marchamp, je ne sais pas si sur la question de la politique européenne du développement durable, vous avez des choses que vous souhaitez ajouter, non ? Je crois que les questions bordelaises étaient plutôt pour vous. Voilà.
La première question, c'était quelles autres expériences ? Je vis dans un monde qui foisonne sur ces sujets. Je n'arrête pas de rencontrer des gens, des entreprises, des organisations qui sont entreprenants sur des projets qui ont le même genre d'ambition. Donc je vois grandir toutes ces initiatives. Je vais citer quelques-unes. Par exemple, le projet Danone Communities est parti donc, de cette entreprise Grameen Danone. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de quelque chose d'autre avec Grameen. Il y a des Grameen Crédit Agricole, il y a des Grameen Schneider, il y a des BSF Grameen. Là, je suis en train d'oublier beaucoup de monde, mais il y a au moins 20 entreprises importantes qui ont tenté dans leur domaine des expérimentations très semblables, mais alors vraiment très semblables, en essayant de partir de cette même intuition du professeur Younous que les principes d'action du microcrédit pouvaient être appliqués à d'autres domaines. Il y a d'autres fonds. Il y a peu de temps après Danone Communities, qui d'ailleurs avait été monté avec l'aide du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole a monté un fonds qui s'appelle Grameen Crédit Agricole, qui est un fonds deux fois plus important que Danone Communities et qui investit sur des projets de microcrédit et de social business. Et eux-mêmes sont en train de créer un fonds, un deuxième fonds dédié au social business. Dans le monde anglo-saxon, depuis à peu près la même période, naît un mouvement qu'on appelle celui de l'impact investing. Alors l'impact investing, c'est tout ce qu'on peut faire entre ne penser qu'à l'actionnaire et ne penser qu'au social. Donc le social business serait d'un côté, tout en étant durable, on n'est pas dans la charité. Et donc il y a ceux qui disent on va être très patient et on va mesurer notre impact social. Il y a ceux qui disent on va se donner des limites en retour pour l'actionnaire. On ne va pas trop donner à l'actionnaire pour pouvoir donner davantage à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Il y a tout un spectre à l'intérieur de cela. Je rencontre beaucoup de projets qui font des choses tout à fait semblables, voire vachement mieux. Il y a un fonds qui s'appelle Acumen qui est connu. Donc je crois que, je ne sais plus si quelqu'un en a parlé, le fonds Acumen, c'est un Danone Communities avec 3-4 ans de plus. Et c'est 70 projets aujourd'hui, dont plusieurs sont très, vraiment très très bien. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y en a plein.
Ce n'est pas seulement les très grandes entreprises.
Trouvais intéressante parce que le projet Danone Communities tel qu'on l'a pris, c'est vrai que c'est un projet d'entreprise riche. Déjà, une partie de ce qu'on fait, c'est un laboratoire. Danone Communities, c'est à peu près 20 millions d'euros d'investis juste en soutien technique au projet, sans aucun retour pour Danone. Donc, il y a des choses qui peuvent être un peu effrayantes. Et maintenant, alors pour le coup, revenant à mon or, je crois que la PME aujourd'hui a un rôle social énorme et qui est celui de l'emploi. Le professeur Younous, la dernière fois qu'il est venu en France, il nous a dit « Vous devez réfléchir à ce que chacun et chacune d'entre vous faites pour l'emploi. » Et il nous a dit « Vous avez inventé le chômage. Vous avez inventé plein de choses merveilleuses, mais vous avez inventé le chômage. Votre société a inventé le chômage. Il n'y a pas de chômage au Bangladesh, il n'y a pas de chômage dans beaucoup de pays qui sont dits pauvres. Or, le chômage, c'est la dignité de l'homme qui est bafouée. » Et donc, il nous a invités à réfléchir à ça. Et je pense que dans cette réflexion et dans cette action, je crois que les PME ont un rôle énorme à jouer, chacune, là où elle est.
Vous m'avez demandé des regrets, oui.
Oui, si j'avais des regrets. Alors, après 6-7 ans, pour moi, l'impact au total que nous avons reste infinitésimal. Donc, ça veut dire que nous avons fait une somme d'erreurs tout au long du parcours. Nous pensons avoir appris de nos erreurs. Nous avons, j'irais même, accéléré notre capacité à apprendre de nos erreurs au fur et à mesure du temps. Donc, on est un peu moins mauvais à chaque fois. Mais oui, je me demande toujours, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir des fois plus d'impact? La réponse, alors pour prendre, puisque je suis un optimiste, le bon côté des choses, c'est qu'en même temps, ces petits exemples vivaient leurs difficultés dont je vous ai parlé tout à l'heure, je crois, ont inspiré pas mal d'autres. Et une partie de tout ce que je vous parlais est inspirée par ces petits projets du bout du monde, donc ça valait probablement le coup. Mais aujourd'hui, je me demande comment on fait x10, x100 dans les années qui viennent. Vous m'avez demandé si Danone travaillait différemment avec ses salariés. C'est une question énorme. Je vais donc pas réussir à répondre complètement, mais je vais dire que Danone a d'abord une fonction ressources humaines extrêmement puissante par rapport à d'autres organisations. On investit énormément dans le recrutement, la formation et l'engagement des gens. Et c'est d'ailleurs au nom de cela que sont faits certains des projets dont nous avons parlé. Ensuite, Danone essaye d'être un acteur responsable sur les questions, bien sûr, de l'emploi, même si Danone vit dans la concurrence. Et enfin, une chose qui m'a beaucoup marqué, moi, et ça fait peut-être partie de mes regrets d'ailleurs, quand moi j'ai démarré, quand nous avons démarré Danone Communities, Danone, à ce moment-là, a mis l'accent très très fort sur la sécurité des employés au travail. Et à ce moment-là, je revenais du Mexique, où nous avions une entreprise de distribution d'eau, donc on avait énormément de chauffeurs sur la route, et donc beaucoup de personnes qui se mettaient en danger tous les jours. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, que je n'avais jamais vraiment fait attention alors que j'avais dirigé une entreprise et que je mettais en danger la vie de gens tous les jours sur la route. Et en même temps, je n'y croyais pas. Je me disais, on va parler de ça, mais je ne vois pas comment le chauffeur mexicain va changer son attitude. Et quelques années plus tard, j'ai vu les courbes de réduction incroyables du nombre d'accidents, du nombre de morts, et je me suis dit, j'aurais pu faire différemment.
Merci. On va reprendre une série de questions tout au fond. Oui, je vous ai bien vu, monsieur. Voilà, mais levez quand même la main pour que le micro arrive jusqu'à vous. Voilà.
Oui, merci. Merci pour la conférence. Ma question serait pour monsieur Marchand. Est-ce que vous pensez que les ONG en Afrique, en Haïti et dans les pays émergents, en fonction de leur mode de fonctionnement actuel, arriveront à mettre un peu d'éthique en leur sein?
L'éthique à l'intérieur des ONG. D'accord, merci pour cette question. Alors, voilà, on va redescendre un peu plus. Voilà.
C'est plus une remarque, une question à Cécile Renoir. J'étais étonné par l'impression que vous donnez que dans les multinationales, il y a un tropisme vers le court-termisme. Je suis moi-même cadre dirigeant d'une société du CAC 40 et je constate que si on fonctionnait avec le court-termisme, on ne durerait pas longtemps. Notre action serait absolument vouée à l'échec. Je pense que la rentabilité à court terme, en effet, est importante, elle est nécessaire, mais si on ne se soucie pas des clients, des collaborateurs à moyen et long terme, on n'a aucune chance de survivre. Donc ce n'est pas par vertu, ce n'est pas par éthique qu'on le fait, mais je pense que c'est par intérêt bien compris.
Et on va prendre deux questions qui sont juste derrière. Voilà.
Excusez-moi de prendre un peu le mauvais côté des choses, mais vous avez dit sur Cécile que l'essentiel, c'est de créer le lien social.
Et ça, je suis tout à fait d'accord. Parlez bien dans le micro.
Oui, c'est de créer le lien social dans l'entreprise. Le problème, c'est qu'on est dans un monde en crise, en tout cas dans notre pays ou dans notre continent, et les problèmes sociaux se posent, et il faut quelquefois licencier soit plusieurs personnes pour des raisons économiques, soit une personne pour des raisons personnelles. Par ailleurs, monsieur Marchand, vous nous parlez du tropisme de la santé de Danone, mais Danone a fait une grande publicité sur la santé et s'est fait réprimander par quelques autorités en disant « mais est-ce que c'est bien vrai ce que vous nous dites ?» Toujours dans le mauvais côté des choses, monsieur Younous fait de très belles choses sans aucun doute, mais on a parlé aussi des problèmes de surendettement que ce microcrédit pouvait éventuellement engager. Excusez-moi d'être un peu...
Non, mais c'est très bien, c'est fait pour ça. Alors, juste, il y avait, je crois, une question juste à côté. Voilà, monsieur. Et puis, on va en rester là pour l'instant.
Bonsoir. Vous nous disiez tout à l'heure, à propos de Danone Communities, que le groupe entier bénéficiait de retombées indirectes en termes d'image vis-à-vis des clients, vis-à-vis des talents qui sont amenés à postuler dans le groupe, en termes de connaissances. Est-ce que ces retombées indirectes sont évaluées et prises en compte dans le retour sur investissement sur le plan financier? Si oui, comment? Et sinon, quelle est la position des investisseurs par rapport à ça?
Voilà, on va s'arrêter pour l'instant là-dessus. Je crois que vous avez des bons sujets pour vous deux. Alors, je ne sais pas, Emmanuel Marchand, on peut commencer par les ONG, et puis après arriver dans des choses peut-être un peu plus compliquées, enfin, un peu plus dures peut-être.
Donc, je ne connais pas assez le monde des ONG pour répondre à la question. Donc, je suis désolé, j'ai rencontré, effectivement, j'ai rencontré beaucoup d'ONG dans beaucoup de situations, dans beaucoup de pays. Je me suis donc effectivement vraiment rendu compte à quel point le monde des ONG est lui-même ancré dans des réalités et qu'on trouve souvent des acteurs au sein des ONG qui sont des idéalistes frottés encore peut-être plus que nous dans l'entreprise aux réalités, aux difficiles réalités, y compris celle de la concurrence entre ONG pour avoir des fonds par exemple ou parfois l'expérimentation que on sait que des choses ne fonctionnent pas vraiment et on continue à les faire. Enfin, j'ai vu tout ça. Mais en revanche, j'ai vu beaucoup d'éthique, moi, avec 20 au sein des ONG, énormément. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'ONG travaillent elles aussi sur, on va dire, la durabilité de leur action. J'ai travaillé pendant presque 2 ans avec l'ONG américaine CARE sur un projet de social business qui avait été au départ monté par CARE. Et CARE a maintenant monté un fonds eux-mêmes. Je les trouve très actifs et j'aime bien d'où ils partent. Donc moi, j'ai plutôt une expérience au total positive, mais je répète, c'est une expérience partielle. Alors, ensuite, je vais prendre la question de finalement, est-ce que Danone, l'impact sur la santé, ou Younous et le surendettement, oui, je dirais que ça, pour moi, ça fait partie de l'histoire. Évidemment, chez Danone, on est persuadé qu'on a un impact sur la santé, on est persuadé que le temps le démontrera. On a investi, vous le savez, des dizaines de millions d'euros pour le démontrer. Aujourd'hui, on nous dit oui, mais c'est vous qui les avez investis, donc il aurait fallu que quelqu'un d'autre le fasse, et on est d'accord. D'une façon générale, la mesure de l'impact sur la santé de quelque chose qui n'est pas de la chimie, un médicament, est en fait très difficile. Et aujourd'hui, on va dire, les protocoles restent encore à définir. Et aujourd'hui, on peut dire qu'un produit a un impact sur la santé s'il a des vitamines, et pas s'il est un probiotique. Et on pense que ça changera. Là, je suis en train de mélanger Danone et moi. Hein. Après, je suis certain qu'on a eu des excès à des moments où on est allé trop loin dans ce qu'on disait par rapport à ce qu'on savait, j'en suis sûr. Le deuxième, c'est sur le surendettement. Oui, je suis persuadé qu'il faut, même si on est plein de bonnes intentions et même si on a plein d'impact positif, ce qui est le cas du microcrédit aujourd'hui, il faut être en permanence vigilant sur les autres externalités qui sont négatives. Et donc les cas de surendettement ont existé. Ils ont existé au Bangladesh, où le professeur Younous, bien que pas tellement finalement, parce que les ONG en concurrence du microcrédit ont réussi à se mettre d'accord très très vite pour ne pas laisser se mettre en route les cercles vicieux, et on connaît d'autres endroits où ils ont mis plus de temps, et dont des provinces de l'Inde. Donc oui, et c'est probablement le cas sur tout ce qu'on essaye de faire de bien.
Merci. Cécile, il y avait des questions qui étaient plus directement, te concernaient plus directement.
Alors, sur la question du court-termisme des entreprises, notamment du CAC 40, enfin des multinationales, ce que je voulais souligner, c'est la question de l'exigence du retour sur investissement élevé, voire démesuré, de la part donc d'investisseurs, d'actionnaires gourmands, voire cupides. Alors, je ne nie pas du tout que les entreprises, et notamment pour certains secteurs, soient amenées à faire des investissements de long terme et qu'elles soient aussi, d'une certaine manière, obligées de prendre en compte le bien-être de leurs salariés ou autres pour pouvoir, ou de prendre en compte les intérêts ou les demandes des communautés locales, par exemple, pour pouvoir, comme on le dit souvent en anglais, avoir la licence sociale d'opérer. C'est pas très beau, le permis social d'opérer. Voilà. Alors, mais pour dire comment j'ai moi-même, dans les recherches que j'ai menées ces dernières années, vu comment cette financiarisation à court terme peut être contradictoire avec des enjeux même les plus élémentaires en matière de sécurité par les entreprises, je peux vous dire, sans nommer l'entreprise en question, qu'au Nigeria, des pétroliers, au moment où le prix du baril était extrêmement élevé, m'ont dit, enfin une personne qui avait très mauvaise conscience, que la maintenance n'avait pas été assurée sur les plateformes parce qu'on disait que c'était le moment de produire. Voilà. Et c'était juste avant que l'affaire Deepwater au Golfe du Mexique n'éclate, si on peut dire. Voilà. Donc ça en dit long quand même sur le caractère dramatique de comportements irresponsables et liés, là, je pense, à des enjeux financiers à court terme. Alors, sur la question du fait que, certes, l'entreprise devrait être au service du lien social et elle est parfois obligée de licencier, oui, ben ça, évidemment, je ne le nie pas du tout, mais il me semble qu'il y a manière et manière de faire des licenciements, il y a manière et manière de prévenir, d'anticiper, d'accompagner les personnes, de veiller à la façon dont ensuite elles peuvent retrouver un emploi. Et pour avoir aussi interrogé des personnes d'entreprises plus ou moins grandes là-dessus, on voit bien comment, justement, la façon de faire joue énormément. Alors, je ne dis pas du tout que ce soit simple, mais il me semble que justement mettre comme objectif permanent par rapport à l'activité de l'entreprise ce souci du lien, de la personne et des relations, c'est une manière justement de trouver, de déployer une créativité extraordinaire au service de solutions. Là, de ce point de vue-là, je suis aussi optimiste, c'est-à-dire que nous ne sommes pas condamnés à une situation dans laquelle le chômage continue à croître et où nous n'avons qu'à enregistrer les chiffres mois après mois. C'est qu'il y a aussi des questions à se poser qui passent, là encore, je reviendrai sur la question des inégalités. Moi, je pense que la question des inégalités de revenus, de richesses dans nos sociétés sont un des facteurs qui empêchent une redistribution équitable et la création d'emplois. C'est pas du tout le seul motif, évidemment, mais je pense que c'est un des éléments très forts de délitement du lien social et aussi d'injustice à court et à moyen terme.
Voilà, on va prendre une toute dernière question avant de nous... Ah, il reste une question sans réponse.
Je n'ai pas répondu à la question de est-ce que Danone évalue les impacts positifs. Donc la réponse est non. On ne le fait pas du tout. Et du coup, la question qui venait derrière, c'est du coup comment on justifie ce projet vis-à-vis des actionnaires. Et donc, la façon de le faire, c'est au travers de la gouvernance, puisque ce projet a été voté en AG de Danone et que le budget Danone Communities est revoté chaque année, en fait, en AG de Danone.
Merci pour cette précision. Je vais reprendre une toute dernière question. Voilà, on va la prendre là. Le micro va...
Bonsoir. J'aimerais revenir sur le dernier point que vous avez évoqué, sœur Cécile, en particulier sur le domaine, sur la notion de confiance, qui, je pense, est au cœur du capitalisme, avant d'être avant tout au cœur de la société humaine. Vous avez mentionné à plusieurs reprises l'insécurité qui va croissante. Il y a différents phénomènes au-delà du court-termisme sur le retour sur investissement, les inégalités. On pourrait mentionner aussi l'effet de la densification de l'être humain, des populations humaines, notamment à travers l'urbanisation croissante et le stress qui est engendré par cette urbanisation. Il y a toute une série de phénomènes qui contribuent justement à augmenter le stress et augmenter la perte de confiance dans son prochain. Vous avez mentionné différents critères. Comment pourriez-vous concrètement proposer éventuellement une action que chacun d'entre nous pourrait entreprendre à notre niveau pour augmenter ce lien
Accent prochain. Merci.
Question facile pour finir. Voilà. Merci, mais bonne question. Cécile, ce sera le mot de la fin.
Très difficile. Mais vous voyez, la première chose qui me vient, c'est de me dire, je pense à notre vie parisienne, c'est peut-être d'oser croiser le regard de ceux dont nous n'avons pas trop envie de croiser le regard. Et moi, je faisais la réflexion tout à l'heure dans le métro. J'ai pris successivement le métro ce matin, le RER, de nouveau, rebelote, le RER, le métro. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont demandé de l'argent, tout ça. Certains qui étaient relativement... L'un ou l'autre comportement un peu désagréable, voilà. Et puis à un moment on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'entre en relation avec le risque, du coup je me récupère des remarques ou autres, et se dire, qu'est-ce qui fait que nous nourrissons cette confiance mutuelle en la capacité à nous reconnaître frères et sœurs les uns des autres? Et moi, il me semble que cette question du lien social, elle passe déjà par ça, par cette conviction que nous avons chacun à recevoir de ceux que nous côtoyons, que nous croisons, que nous rencontrons. Alors après, ça peut être simplement un petit geste. Et je pense aussi à un livre qui a été écrit il y a quelques années par un sociologue d'entreprise qui analysait à partir de l'essai sur le don de Marcel Mauss les comportements que nous avons quand nous tenons la porte dans le métro. Il n'y a rien qui nous oblige, enfin quand on sort du métro et souvent on est pressé. Mais je pense que très souvent, nous avons le réflexe de regarder s'il y a quelqu'un qui vient juste après nous. Et souvent, nous tirons la porte et nous regardons la personne, et il y a une relation qui s'établit. Et je ne sais pas si... Enfin, il analysait ça, et je trouve que c'est très juste. On se sent heureux de ce lien qui s'établit, ne serait-ce que, voilà, à une fraction de seconde. Et je me dis ça, c'est... Alors, lui, toute son analyse consistait à dire... Voilà, il analysait France Télécom, c'était avant la vague des suicides à France Télécom. Il avait regardé l'expérience faite par les salariés du groupe du passage d'une entreprise publique à une entreprise avec participation de l'État, mais avec un mode de fonctionnement beaucoup plus sous l'angle de ce qu'il appelait le management par le haut. Et ce qu'il analysait, c'est le fait qu'on avait à vouloir optimiser les performances des uns et des autres... Par cette forme de management, on avait perdu ce qui fait la spécificité des relations humaines, cette capacité à créer du lien un peu informel, à avoir telle ou telle parole, geste d'aide, contribution, qui ne rentre pas dans le strict cadre de la fonction que l'on a. Et je pense que ça, cette expérience-là de dire ce qui fait un fonctionnement... Alors, il en déduisait qu'en plus, l'entreprise, finalement, fonctionnait moins bien. Donc c'est une manière de dire que de remettre le lien social, la qualité des relations au centre, nous permet de développer des projets, justement, qui nous permettent d'aller mieux aussi collectivement. Donc ça, on peut peut-être décliner ça à l'échelle de l'entreprise et puis à l'échelle très quotidienne. Mais voilà, je pense qu'après, il faudrait que chacun donne des exemples.
Voilà, merci beaucoup Cécile Renoir, Emmanuel Marchand. Merci de nous avoir ainsi aidés par vos paroles personnelles et engagés à avancer, nous aussi, dans notre propre réflexion sur ces questions si fondamentales pour l'avenir de notre société. Je vous rappelle qu'à la sortie, vous pourrez trouver les différents ouvrages de Cécile Renoir, notamment le dernier, Éthique et entreprise, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire. Vous trouverez aussi des urnes où vous pourrez déposer votre libre participation aux frais de la soirée. Merci de votre fidélité. Rendez-vous au mardi 7 janvier pour la prochaine soirée d'éthique publique de l'année qui sera peut-être, si Dieu le veut, sur la situation en Syrie et au Proche-Orient. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.